Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé de TV Magazine. Nous sommes partis pour 30 minutes de direct d'interaction avec vous et également avec notre invitée. Elle a été mannequin, elle a été également Miss Belgique, mais elle est surtout aujourd'hui une présentatrice télé et journaliste météo. Chaque week-end, vous la retrouvez, elle fait un peu la pluie et le beau temps, comme on dit, avant et après les JT de TF1. Elle est aussi l'un des visages de la chaîne TMC. Si elle vient nous voir aujourd'hui, ce n'est pas du tout pour nous donner les prévisions météo, on sait que c'est déjà l'automne, mais pour nous parler plutôt d'un ouvrage dans lequel elle se livre comme jamais. Tatiana Silva, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans le Buzz Télé, je le montre. Vous publiez ces jours-ci, allez le titre.
Tout commence par soi.
Tout commence par soi. Je rappelle donc aux éditions Albin Michel, un livre où les gens vont vous découvrir. Ce n'est pas du tout l'image que vous pouvez projeter. Oui. Je trouve qu'il y a de la gravité d'ailleurs dans ce livre, on va y venir. Pourquoi vous avez décidé de vous dévoiler aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu un événement qui a précipité finalement l'écriture et la publication de ce livre?
Non, il n'y a pas eu d'événement qui a précipité l'écriture. Il y a eu un travail assez long qui a été fait par rapport à tout ce que j'ai vécu et qui est encore en cours. C'est quelque chose qu'on fait pendant toute une vie. Mais il y avait un certain recul où je me disais peut-être il est temps de commencer à partager, à essayer de... C'est pas une transmission, mais en tout cas de pouvoir mettre et coucher sur papier quelque chose que j'ai vécu et qu'est-ce que j'en ai tiré comme leçon, quels sont les contours de mon intérieur et si ça peut faire écho à d'autres, eh bien, ça peut être utile, tant mieux.
Parce que vous parlez quand même de mort,
oui.
de vos parents, oui. Vous parlez aussi d'avortement.
Exactement,
des passages, on va dire, un peu difficiles, déception amoureuse.
Oui.
Qu'est-ce qui a conduit à un moment donné au fait que vous disiez « je peux coucher ». Tous ces sentiments, tout ce vécu intérieur sur du papier. Alors, vous êtes plutôt quelqu'un, finalement, qui était sur la réserve.
Oui, parce qu'il y a un apaisement. En fait, quand on commence à rentrer dans ce cheminement, cette quête, en fait,
vous avez appris à vous aimer, c'est ça, on dit?
Oui, appris à vous aimer, mais appris à m'apaiser, en fait, à cohabiter avec mes blessures, à comprendre qu'en fait, j'étais pas définie que par elles, mais qu'à un moment donné, voilà, l'apaisement, quand on le trouve, nous permet de parler des choses avec plus de légèreté, plus d'ouverture. Quand on est dans sa blessure, on a du mal à parler des choses qui nous rendent fragiles. Une fois qu'on est plus apaisé par rapport à ça, on peut se dire, je peux prendre parole et je peux en témoigner, que ce soit l'avortement où on s'en cache énormément, il y a beaucoup de culpabilité, donc il y a un chemin qui est fait et au bout d'un moment, on peut en parler calmement et sereinement sans se sentir mal à l'aise. Et parler, ça libère sa voix à soi, sa propre voix, mais la voix des autres aussi, parce qu'on a un sentiment où on s'identifie par rapport à ce que l'autre a vécu.
Tatiana Silva, donc apaisée, on pourrait dire qu'on reçoit aujourd'hui, oui, sur ce plateau. Je vais vous citer dans la dédicace, c'était au tout début du livre, vous remerciez votre famille, vos, oui, proches bien sûr, mais aussi l'univers. C'est, oui, quoi l'univers pour vous?
C'est ce qui englobe le tout. C'est, pour moi, je me définis comme quelqu'un de spirituel, c'est-à-dire que je crois qu'on est tous interconnectés. La physique quantique nous parle d'énergie. On est des énergies vibratoires, finalement. Et donc, je me connecte à un tout qui est l'univers, qu'on peut appeler pour certains Dieu ou autrement, qu'importe.
Donc,
mais une énergie universelle.
C'est la religion, quand même.
Mais il n'y a pas de dogme ici, en fait.
Il
n'y a pas de dogme. C'est la grande différence. Et il y a une complète ouverture, c'est-à-dire que je n'ai pas de certitude sur tout, si ce n'est sur le fait que, certainement, on est tous reliés et qu'on se doit se respecter par rapport à cette énergie qui nous relie.
Nous sommes en direct sur Figaro Live, je rappelle, avec Tatiana Silva, qui vient nous parler de la publication de son livre. Est-ce que vous êtes des fidèles de sa météo? Je rappelle, la météo, c'est l'un des programmes qui fédère le plus d'audience aujourd'hui en France. Est-ce que vous suivez également ses émissions, notamment sur TMC? Dites-nous tout et en attendant, on retrouve Sarah Lecoeuf pour les news médias du jour. Bonjour Sarah.
Bonjour Philippe, bonjour Tatiana. Bonjour.
Alors Tatiana, tradition oblige, on parle d'abord et avant tout des audiences télé de la veille.
Ah, et c'est votre chaîne qui est en tête, Tatiana, TF1, grâce à Astérix et Obélix, oui. Mission Cléopâtre, ce classique du cinéma français. 5 300 000 téléspectateurs rassemblés et 25,3% de part d'audience. C'est un très beau score qui permet à la chaîne d'être leader, devant M6 notamment, qui proposait la suite de la saison 16 de L'Amour est dans le Pré. L'émission de Karine Le Marchand a en moyenne captivé près de 4 millions de fidèles et 18,9% de part d'audience. C'est quasiment le même score que celui atteint la semaine passée. Et enfin, c'est France 2 qui est sur la troisième marche du podium avec L'Ami qui n'existe pas. C'est un téléfilm avec Audrey Dana qui a intéressé 3 200 000 personnes et à peu près 15% de part d'audience. Et on termine sur ce faible score de France 3. La chaîne proposait La Villa, c'est un film dramatique avec Jean-Pierre Darroussin. Et bien seulement 1 800 000 cinéphiles et 8% de part d'audience.
Tatiana, vous ne regardez pas que la météo, j'imagine, à la télé.
Non, non, je ne regarde pas que la météo, heureusement. Non, d'autres passions. Je ne regarde pas énormément la télé, mais bon, je dois dire quand même que j'aime beaucoup New York Unité Spéciale. Je sais que les gens trouvent ça surprenant, mais moi, ça me détend. L'inspecteur Benson avec une série américaine que notamment TF1 diffuse, mais je la regarde depuis des années. Donc moi, ça me détend. Je l'enregistre afin de ne pas la rater quand j'ai le temps de me poser, de pouvoir me détendre. Donc voilà, ou sinon, j'aime beaucoup Arte. Je sais qu'on n'a pas le droit de parler à la concurrence, mais voilà, j'aime bien Arte. Je regarde souvent Arte quand je suis au travail le week-end, quand j'ai un petit moment après ma météo, parce qu'ils ont des magnifiques reportages et je pense qu'une période où on n'a pas pu beaucoup voyager, ça fait du bien de pouvoir ouvrir le spectre et le champ du possible. Donc voilà, c'est, j'ai découvert les femmes tatars, voilà, grâce à Arte ce week-end.
Un peu d'évasion.
Oui, voilà, un peu d'évasion et ça me fait du bien.
On poursuit ces news avec l'ouverture aujourd'hui même de la billetterie des Enfoirés, un très beau spectacle à venir.
Et oui, depuis 10 heures, eh bien, les Français qui veulent assister au nouveau spectacle au profit des Restos du Cœur, eh bien, peuvent réserver leur place sur le site officiel. 6 représentations, dont 3 captées par TF1, sont prévues entre le 20 et 24 janvier prochain au sud de France Arena. C'est une salle de spectacle qui est située à Montpellier. Alors les prix aussi entre 65 euros et 90 euros.
Les Enfoirés, on vous a déjà proposé d'y participer ?
Non, mais je me disais que j'aimerais vraiment y aller. En fait, chaque année, je les vois, parce qu'avant ma météo, on a les bandes-annonces, et généralement aussi, non, les annonces aussi. Donc moi, je me dis, j'aimerais bien assister en fait, au concert, tout simplement. Mais il faut voir si ça ne tombe pas un jour où je travaille. Donc c'est plutôt ça que je me faisais comme réflexion pendant
c'est
que vous
étiez. C'est la semaine, je crois que c'est du lundi au vendredi.
Ah, ça pourrait peut-être.
Il y a la captation que sur quelques jours pour.
Oui, les trois derniers jours, c'est la captation. Ouais.
D'accord.
Et comme ambassadrice, que vous êtes ambassadrice de l'UNICEF, je
crois,
pour la France, vous ne pourriez pas être invitée éventuellement, pour aller porter un discours, un message.
Non, mais vraiment, c'est pas tant être invitée, c'est vraiment d'y assister parce que je pense que c'est une ambiance assez dingue. Ouais. Et je vois toujours ces images et je me dis, et puis on les diffuse au niveau du spectacle, j'ai envie d'y assister en fait, tout simplement. Je crois que j'ai envie d'être un peu avec du monde.
Le sens de la fête.
Exactement, on en a besoin, je pense.
Ouais. Allez, on termine avec Guillaume Canet, pardon, qui a été un peu rembarré par Marina Carrère dans Cause.
Et oui, hier, le comédien était invité de l'émission Santé de France 5 et il s'est retrouvé au milieu d'un débat autour de la dépression. Alors, quand l'animatrice et médecin est revenue à plusieurs reprises sur son burn-out qu'il avait fait il y a plusieurs années, eh bien, il n'a pas caché sa contrariété. Regardez.
Je voudrais juste quand même préciser que je ne savais pas qu'on faisait une émission entièrement sur la dépression. Du coup, on a essayé de trouver tous les thèmes qui pouvaient me rapprocher du thème général de l'émission. Donc, je voudrais quand même préciser que mon film n'est pas un film sur la dépression.
Non, absolument pas.
C'est quand même très important de le dire. Donc, je vais répondre à votre question, mais je voudrais quand même le dire, parce que je pensais pouvoir parler plus du film que de la dépression. Mais je vais répondre à votre question parce que c'est très intéressant. En même temps, c'est un sujet très intéressant.
Voilà, donc il a quand même répondu aux questions de Marina Carrère dans Cause, donc tout est bien qui finit bien.
Vous vous retrouvez vous-même dans des interviews comme ça, en entretien avec des journalistes, où on vous a poussé un peu dans vos retranchements, on a essayé d'avoir quelques confidences, des questions indiscrètes ou pas ?
Depuis quelques années, non, ça va. Après, on sent parfois l'interprétation. C'est-à-dire qu'on a beau essayer de dire les choses telles qu'elles sont, la personne fait toujours parfois un lien ou crée du lien avec autre chose qui lui est peut-être propre. Et donc ça, c'est parfois un petit peu dérangeant. Donc on essaye de rectifier. Après, voilà, c'est pas très, très grave, je pense. Mais non, je pense que j'ai un caractère assez affirmé pour dire que non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire.
Merci, Sarah, pour CNews Média. Et on poursuit tout de suite avec l'interview du Buzz Télé avec Tatiana. Commence par soi, donc je le remontre à nouveau hein, dans toutes les bonnes librairies, comme on dit.
Oui.
Publication évidemment, Albin Michel, vous avez publié il y a donc depuis quelques jours. Hein, mm-hmm. Vous commencez cet ouvrage en parlant de votre famille.
Hein, oui.
Vous avez été très tôt, vous avez très vite basculé tôt et jeune dans la vie d'adulte. Vous n'avez que 16 ans quand votre mère est décédée, je crois, d'un cancer du sein. Est-ce que c'est le premier épisode qui a forgé votre caractère?
Oui,
et d'une certaine manière, la difficulté à vivre qu'on sent tout au long des pages, quand même.
Oui, certainement. Je pense que il y a beaucoup de choses qui sont déterminées, on le sait maintenant, de 0 à 6 ans, mais peut-être même jusqu'à l'adolescence. Et il s'avère que moi, ma maman est décédée quand j'avais 16 ans, et ça a vraiment déterminé tout un chemin de vie, puisque j'ai eu ma majorité émancipée. Et ça, c'est vraiment un moment, un tournant dans ma vie, dans mes choix de vie, par après, que ça va pouvoir faire des études ou pas, devoir travailler, etc. Mais aussi un choix qui est un non-choix, finalement, qui est celui d'une blessure qui reste incommensurable et qui ne va jamais vraiment cicatriser, qui est celle de l'abandon, qui est celle peut-être en partie du rejet, non volontaire évidemment de la part de ma mère, mais qui est là et qui détermine beaucoup les choix que je fais de manière je pense, conscientes, mais qui sont en fait pilotées par l'inconscient et par cette blessure de ne pas vouloir être abandonnée, que ça soit au travail, que ça soit dans les relations amicales ou amoureuses. Et donc, prendre conscience de ça permet à un moment donné de reprendre les rênes de sa vie. Parce que quand on connaît ce qu'on appelle les expériences parfois douloureuses plus tard, qui sont en fait provoquées par nos choix, on n'a pas envie de les réitérer indéfiniment et on se dit mais d'où ça vient? Et donc on se dirige vers des gens qui peuvent nous aider, nous aiguiller, comme des thérapies classiques, puis alternatives, et puis des retraites, etc. Donc c'est vraiment l'envie de reprendre un peu plus le contrôle juste de ma vie et ne pas faire des choix d'un endroit qui est en fait encore très fragilisé.
Sarah, première réaction ou question des internautes.
Parce que nous sommes en direct sur le figaro.fr et la page YouTube de TV Magazine. Et j'ai cette première question de Charlotte. Gardez-vous un bon souvenir du Koh-Lanta belge? C'est vrai que vous avez été participante.
Dont on
n'a
pas encore parlé.
Dans le livre.
Oui, c'est vrai.
Et oui.
Oui, j'en garde. Alors, j'en garde un magnifique souvenir parce que c'est une expérience hors du commun. Je veux dire, se retrouver sur une île en train de survivre pendant, nous, c'était un mois maximum. Si on allait jusqu'au bout, c'était incroyable. Par contre, extrêmement difficile, très confrontant. Et pour moi, ça a été plus un jeu, même si c'était très dur physiquement, psychologique que physique. C'est-à-dire qu'il faut tenir vraiment psychologiquement par rapport aux stratégies des gens, par rapport à son plus grand ennemi, qui est soi-même, en fait. Hein. C'est ses pensées qui émergent et le fait qu'on n'a parfois pas l'énergie et la force d'aller au-delà. Donc oui, belle expérience, très enrichissante. Et je crois que c'est la première fois où j'ai eu cette conscience de dire que j'étais vraiment fière de moi.
Ouais. Vous êtes allée jusqu'au poteau, je crois. Hein.
Oui, j'étais jusqu'au poteau. Oui. J'ai été en fait. Nous, on avait une émission qui allait jusqu'en finale avec deux finalistes, et puis le gagnant était sous vote avec les autres candidats qui avaient terminé l'aventure. Donc moi, j'ai été jusqu'au bout par rapport à mes propres capacités. Après, les votes ne dépendaient plus de moi, donc j'ai été en finale. Oui.
Vous conseillez pas Denis Brognard éventuellement aujourd'hui sur. C'est le Koh-Lanta français?
Non.
Il n'est pas venu vous voir, d'ailleurs, vous dire s'il peut participer, s'inscrire,
tata. Il pourrait venir, mais je ne sais pas si j'aurai encore cette énergie, cette force de le faire. Moi, je suis admirative.
On voit que c'est de plus en plus sportif.
C'est de plus en plus physique, donc les épreuves, franchement, c'est costaud de plus en plus. Et puis, au-delà de tout, il y a des choses, je pense, qu'on doit vivre une fois. Pour ma part, en tout cas, on n'a pas besoin de la réitérer. Ça a été une expérience extraordinaire, vraiment, hein, mais très éprouvante. Et donc,
la fin aussi, on n'a pas parlé de la fin, mais ça doit être dur.
Oui, la fin. Alors, la fin, tout est dur, en fait, dans Koh-Lanta. Je veux dire, on est juste soulagé quand on en sort, enfin, en se disant, ça a été incroyable.
On quitte l'aventure pour revenir au livre. Vous parlez de l'abandon aussi dû à l'absence de votre père, hein, notamment dans votre livre. Il y a un syndrome de l'imposteur, un syndrome qui serait né quand vous avez participé, justement, on en parlait tout à l'heure, à Miss Belgique.
Oui, en fait, c'est un peu plus complexe que ça.
Le syndrome de l'imposteur.
Oui, ce sentiment d'illégitimité où on ne se sent jamais à sa place, en fait. C'est un sentiment que pas mal de femmes ressentent, étant diplômées ou pas, en fait. Ce n'est pas lié à un diplôme. Bon, pour le fait, moi, j'avais pas de diplôme. Enfin, j'étais pas diplômée dans une. J'avais pas une qualification spécifique. Et puis, j'avais été Miss Belgique. Donc, quelque part, j'avais la couronne, comme je dis dans le livre, pour seul diplôme. Et ça a été compliqué parce que très vite, on vous restreint vraiment le champ du possible. C'est-à-dire que vous êtes ce que vous êtes physiquement, mais vous ne pouvez pas être autre chose à côté ou derrière. Et donc, il a fallu, avec le temps, donc j'ai construit mon diplôme avec le temps. Mon CV s'est construit sur 12 ans de carrière pour l'instant. Et ça permet maintenant de pouvoir sentir un peu plus légitime, surtout quand je suis arrivée chez TF1 à la météo. C'est-à-dire que j'avais déjà travaillé pendant 7 ans pour TV5 Monde, pour M6 et la RTBF à la météo. Mais en venant chez TF1, en ayant été débauchée en fait, pour venir, ça m'a vraiment apaisée en me disant en fait, je fais correctement mon travail et j'ai des compétences. Ça semble un peu fou, mais vraiment, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et ça vient du fait de, dans notre société, on est plus facilement reconnu quand on a un diplôme, quand on est dans une case, en fait. Et quand on n'est pas dans une case précise, c'est un petit peu perturbant et pour l'autre et surtout pour soi.
Le syndrome, il a disparu.
A disparu, j'ai toujours parfois des petits doutes, mais il va beaucoup mieux. C'est-à-dire que je tends vers l'apaisement. Moi, j'aime pas mentir sur le fait que tout va bien aujourd'hui. Il y a de belles choses dans ma vie, mais tout n'est pas résolu. C'est un travail de vie. Mais je suis plus apaisée que je n'ai jamais été depuis de nombreuses années. Donc, je trouve que ça, c'est déjà quelque chose de pris.
Sarah.
Oui, alors on parlait de Miss France, Miss Belgique, et justement beaucoup d'internautes se demandent ce que vous pensez de cette polémique un peu naissante depuis quelques jours maintenant sur Miss France. C'est remis en question ce concours par les féministes qui dénoncent le sexisme, la discrimination.
Quelques féministes, c'est pas non plus toutes.
Non, pas toutes les féministes, mais une association Oser le féminisme notamment. Oui. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez?
C'est une question qu'on m'a souvent posée. Moi, je pense qu'on doit laisser le choix aux gens, en fait. La liberté, elle va dans tous les sens, qu'elle soit pour l'IVG, l'avortement, elle est aussi pour les concours de Miss. Si une femme a envie de faire le concours de Miss France, Miss Belgique ou Miss Kazakhstan, c'est son choix. Et la liberté ne peut pas être restreinte et on ne peut pas conditionner une femme à dire tu n'es pas une femme ou tu es restreinte dans ta manière d'être parce que tu fais le concours. Moi, je me sens une femme libre. J'ai été ravie de faire ce concours. Moi, ça m'a apporté, ça m'a ouvert beaucoup de portes et j'ai créé des choses après, mais c'est aussi grâce à ça. Donc, je pense qu'il faut surtout laisser le choix et arrêter d'avoir un jugement néfaste sur des choix où personne n'a obligé la personne à s'inscrire. Voilà, elle a fait un choix de le faire. Et voilà, il faut se poser les bonnes questions. Je pense qu'il y a d'autres combats au niveau du féminisme qui sont peut-être prioritaires et importants. Après, voilà, si pour eux ça semble important, moi je pense que la liberté d'expression prime surtout. Et donc, on les laissera s'exprimer. Moi, je pense que c'est un concours qui est assez beau et qui, moi, en tout cas, m'a toujours fait rêver. Donc, je ne peux pas aller à l'encontre de ce que j'ai moi-même fait, réalisé et ce que je trouve encore très beau aujourd'hui.
Alors, justement, pourquoi vous aviez décidé de faire le concours de Miss Belgique alors qu'a priori, votre père, ce que vous dites, désapprouvait cette position?
Mon père était plutôt ce qu'on appelle un intellectuel. Enfin, je veux dire, il voyait ça d'un mauvais œil, de ne pas... me lancer directement dans mes études, etc. Bien qu'après, quand j'ai gagné, il était fou de joie et très fier. Mais bon, la raison pour laquelle moi j'ai participé, bon, chacun prend des raisons différentes. Moi, c'était vraiment pour trouver un boulot. Je m'étais dit, bon, il y a une ribambelle de sponsors, de partenaires. J'ai pas de diplôme, mais j'ai les langues. Je suis plutôt bonne communicante. Peut-être que si on me donne ma chance, un peu comme à l'américaine, t'as pas de diplôme, je crois en toi, bah vas-y, viens et je te forme. Mais c'est ce que j'ai espéré. Alors, ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça, mais au final, ça s'est quand même plutôt bien terminé, même si ce n'est pas la fin.
Il y a une vie après les Miss, on le voit.
Oui, on le voit. Bien sûr, et on le voit. Et non, il y a une vie après les Miss, et il y a une vie après les Miss hors médias. Parce que c'est ça qui est terrible aussi, c'est que parfois, on a l'impression qu'on ne peut exister qu'à travers les médias quand on a été Miss. Après, on peut retrouver au travail. Moi, j'ai eu des Miss en Belgique qui ont continué leurs études et qui sont aujourd'hui avocates, médecins, et qui ont vu ça comme une belle parenthèse dans leur vie, mais qui n'ont pas continué dans les médias. Donc voilà, il faut savoir ce qu'on veut faire. C'est un concours extraordinaire qui nous donne des contacts. Si vous avez des idées, si vous avez des projets, et bien vous aurez plus facilement la chance de les réaliser et encore faut-il les avoir, évidemment.
Sarah.
Oui, j'ai une question de Thierry. D'où vient le gimmick « Prenez bien soin de vous » à la fin de chaque bulletin météo? C'est vrai que vous avez cette phrase
oui,
qui conclut vos météos. D'où vient-elle?
Alors, c'est une phrase que je dis depuis maintenant près de 12 ans parce que j'avais envie de dire quelque chose de particulier à la fin de ma météo, plus que belle soirée seulement. Et aujourd'hui, depuis de nombreuses années, ça prend un sens qui est vraiment dans mon travail de développement personnel et sur moi, c'est prendre soin de soi, vraiment, quand je dis, et surtout prenez bien soin de vous, c'est vous êtes la priorité absolue. C'est-à-dire, même si vous êtes parents, grands-parents, vous avez des gens autour de vous dont vous devez vous occuper, la priorité, c'est soi. Si vous allez bien, vous avez la possibilité de vous occuper de vos enfants, de votre compagnon, de votre maman, de qui sais-je, de faire votre travail correctement. Donc, la priorité, c'est soi. Et quand je dis, et surtout prenez bien soin de vous, c'est vraiment prenez soin de vous, quoi.
On évoquait tout à l'heure votre peur de l'abandon, hein, qui est tellement un fil dans votre livre. Est-ce que vous l'avez vis-à-vis aujourd'hui de votre employeur, le groupe TF1, en disant du jour au lendemain, ça peut s'arrêter et...
Je garde conscience.
Cette angoisse qui...
Non, je n'ai pas d'angoisse, non. Mais je garde en tête l'impermanence de la vie. C'est-à-dire que tant dans les choses positives, elles ne sont pas éternelles et tout est en mouvement, tant dans les choses négatives où quand on ne va pas bien, on sait que ça ne sera pas éternel non plus et que ça va changer. Donc je garde en tête qu'aujourd'hui, au niveau du marché de l'emploi, rien n'est stable et rien n'est acquis. Alors il y a des gens qui ont fait des magnifiques carrières de 30-40 ans. Evelyne Delia est toujours là et c'est extraordinaire. On espère qu'on aura tous la chance d'avoir des très longues carrières et encore... Faut-il qu'on ait envie de ça aussi? Donc non, je ne vis pas avec une épée Damoclès en me disant chaque jour, est-ce que je vais être virée? Non.
J'espère est-ce que TF1 vous rassure au quotidien?
Non, pas au quotidien, mais j'ose espérer qu'ils sont contents. En tout cas, moi, je m'y plais, je me sens bien dans cette boîte et j'arrive à faire des choses différentes. Après, c'est vrai qu'on a toujours l'appréhension, ça pourrait arriver. Il y a eu la crise, on s'est dit, bah, tiens, est-ce que ça va changer des choses? Là, on voit que le groupe va peut-être s'agrandir, est-ce que ça va changer? Mais si on commence à projeter des choses qui ne sont pas encore là, alors on peut vivre dans une angoisse à la minute, tous les jours, chaque jour qui passe, et je pense que ce n'est pas très bon pour la santé.
Je suis dit, avec les questions d'environnement, de réchauffement climatique, on voit que la météo a une place majeure et qui va a priori prendre de plus en plus de place sur les écrans de télé.
Alors on ne verra pas la météo, je pense, disparaître du tout, même si on a cru à un moment donné avec les téléphones intelligents qu'on allait pouvoir tout faire. On voit que la météo est importante, elle fédère. On voit aussi, nous, on était une des rares chaînes à incarner encore la météo pendant la crise sanitaire. Et donc c'était rassurant pour les gens. On avait évidemment tout ce JT qui était quand même pas évident parce que voilà, il fallait parler de la réalité, c'était parfois anxiogène. Puis on avait cette météo un peu spéciale parce que quand on est en confinement, on pouvait pas vraiment sortir et en profiter. Non, mais ça rassurait quand même les gens. Donc je pense que la météo a de longues, de très longues décennies devant elle. Après, rien n'est acquis, rien n'est sûr. On n'a pas de boule de cristal, donc on essaye de se raccrocher à ce qui existe, c'est-à-dire aujourd'hui.
Sarah.
Est-ce que vous avez des idées d'émissions autour de l'environnement ? C'est pour rebondir sur ce que vous venez de dire. C'est une question de Fanny.
Alors, on a plein d'idées d'émissions autour de l'environnement. Louis Baudin aussi, Evelyne Delia. Il faut de l'espace. L'antenne, c'est quelque chose qui est précieux. On essaye de faire au maximum. Ce n'est pas toujours évident. Donc, on aimerait. Pour l'instant, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Mais je pense qu'ils y pensent de plus en plus. Mais il faut pouvoir caser tout. Parce qu'il y a des gens qui veulent des émissions sur l'environnement. Il y en a qui veulent plus de séries. Il y en a qui veulent plus d'infos. Donc, voilà, il faut contenter tout le monde. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura toujours la météo entre-temps, si jamais on n'a pas encore ces émissions sur le climat et l'écologie.
Pourquoi pas le retour d'Ushuaïa Nature ? Ça vous plairait, ça ?
Oh, ça serait bien, oui, effectivement. Pourquoi pas, oui. Bah, Ushuaïa est toujours là. Donc, quelque part, on verra comment ça va évoluer. Il y a Fanny qui continue à faire son émission sur TF1, je pense que c'est le samedi matin, qui est diffusée sur TF1. Donc voilà, on avance, on évolue, mais ça n'a pas été évident pour les directeurs d'antenne de tout caser.
Je reviens sur un sujet qu'on a déjà évoqué, hein. Vous avez eu recours à l'IVG. Hein. C'est des pages assez éprouvantes et émouvantes hein, quand même dans votre livre. Je ne sais pas si vous l'avez vécu, j'imagine, de la même façon. Quel message vous avez voulu faire passer en parlant de cette histoire très, très, finalement, très intime ?
Oui, c'est intime. On ne peut pas en parler facilement si on n'a pas assez de recul. Je pense que ça reste quelque chose où on garde un sentiment de fragilité, de culpabilité. Il y a beaucoup d'émotions qui viennent autour de l'IVG. J'en ai parlé parce que dans mon cheminement de partir en arrière, c'est-à-dire vers l'enfance, de comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui ont déterminé mes choix dans le présent ou dans le passé proche, à travers le prisme de mon enfance et de ce qui est arrivé là, je voulais expliquer d'où ça venait en fait et le comprendre. Et je pense que ça a été thérapeutique parce que j'ai écrit 5 fois ce passage parce que je voulais pas rentrer dans les détails de comment c'était pas mon idée n'était pas de dire voilà c'était difficile, ça a été compliqué, c'était douloureux, c'était pas ça. C'est de comprendre d'où ça venait et expliquer que parfois on fait des choix qu'on pense en âme et conscience être vraiment nos choix et ils sont vraiment déterminés par d'autres choses. Alors c'est pas grave, c'est comme ça et il n'y a pas de regret, mais je voulais vraiment travailler sur cette idée de tout le fil conducteur, c'est vraiment partir de l'enfance et de dire voilà beaucoup de choses ont été déterminées à mon enfance et maintenant j'œuvre pour que mes choix soient plus de celles d'une Tatiana qui est adulte et qui commence à guérir de ses blessures que de la petite Tatiana qui a été fortement blessée et qui se protège.
Et aujourd'hui ces blessures, elle est refermée, ça vous permet...
Certaines cicatrisent bien, d'autres sont encore là quand même. Et je veux dire, la blessure de ma mère, quand je dois parler de ma maman, je reste toujours très émue et je sens que ça restera fragile. Donc je ne sais pas si on peut faire vraiment son deuil d'un être aussi cher, que ce soit une maman, un papa ou même un enfant par exemple. C'est des choses avec lesquelles on cohabite et il faut être honnête vis-à-vis des gens. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à vouloir dire « non mais ça va aller, on veut rassurer les gens pour qu'ils aillent bien ». Mais être honnête leur permet aussi d'appréhender un peu mieux le futur et de dire « peut-être tu devras toujours cohabiter avec cette blessure, mais tu vas t'apaiser ». Et au lieu d'y penser, ben, chaque heure, tu y penseras peut-être une fois par jour, puis une fois par semaine, et ainsi de suite. Et parfois, tu arriveras même à oublier l'anniversaire du décès, et puis même peut-être l'anniversaire du parent, parce que ben, y a de la légèreté, et tu te laisses porter par la vie, parce que tu es en vie, et tu fais partie des vivants et non des morts.
Alors, être en vie, c'est aussi avoir des enfants.
Oui.
Est-ce que vous êtes dans la projetée aujourd'hui avec des enfants
Ça a toujours été une envie, hein, avoir des enfants. Après, je pense qu'on est dans une société où c'est vrai qu'on attend d'une femme d'avoir des enfants dans un certain délai aussi, parce qu'on a une horloge biologique, parce qu'on a un délai aussi physique. Pour moi, en tout cas, il y avait des choses à régler avant, vraisemblablement. Et je n'ai jamais été quelqu'un porté par combler quoi que ce soit. J'ai toujours eu envie de faire parce que c'était le moment, parce que c'était le bon timing. Et j'ai fait pas mal de choses dans ma vie. Et je pense que j'aurai des enfants, mais je ne peux pas vous dire quand. Je viendrai l'annoncer. Non,
vous serez la bienvenue. Bah
oui.
Vous serez la bienvenue.
Non, mais je veux dire, voilà, oui, c'est une question que tout le monde se pose. Et oui, j'ai envie, mais c'est une question de timing, de temps. Moi, je suis très apaisée par rapport à ça. Je sais que ça va aller. Je ne suis pas angoissée par rapport à le fait d'avoir des enfants. Et peut-être que je n'en aurai pas. Mais a priori, oui, c'est un désir et ça arrivera quand ça arrivera. Il faut être confiant dans la vie et laisser les choses faire, en fait. On ne peut pas tout contrôler. Et on vit dans une société où on a besoin de contrôle. Et le contrôle, j'en parle aussi dans mon livre, c'est intéressant pour certaines choses, mais parfois, il faut se laisser porter aussi par la vie. Et ça s'appelle lâcher prise. Et c'est difficile.
Ouais.
Sarah, une question.
Oui, je vais poser la question de Thibaut qui me l'a posée 3-4 fois, donc je vais y répondre parce que là, il insiste. Oui. Pouvez-vous nous parler de votre relation avec Stromae qui est dans votre livre ? C'est vrai, vous avez été en couple avec le chanteur.
Il n'est pas dans mon livre. Non, il n'est pas dans mon livre. Je ne sais pas si cette personne a lu mon livre.
Non, vous avez parlé de déception amoureuse dans le livre.
Ah bah, j'espère que quand même ma vie n'est pas résumée à ça. Je ne parle pas de lui, en fait. C'est des choses que je n'ai jamais souhaitées. Donc, ça ne sera pas aujourd'hui, Thibaut. Je suis désolée. Et je t'invite à lire mon livre dans lequel il n'y a pas absolument pas de propos sur lui.
Ces spéculations sur votre vie privée, oui. Comme tous les people, hein, comme beaucoup de gens à la télévision, ça vous agace ou ça vous fait sourire, ça vous amuse et finalement vous dites...
Ça m'amuse. En fait, je comprends. Les gens sont curieux, les gens veulent savoir. Bon, moi-même, j'ai envie de savoir, tiens, est-ce que Brad Pitt va se remettre avec Jennifer Aniston ? Je veux dire, c'est un autre niveau, tout le monde veut, on en aimerait tous. Voilà, je comprends. Après, la bonne blague ou le côté léger s'arrête là où je dis... C'est ma vie privée, j'ai pas envie d'en parler, et que quand la personne le respecte, bah, tout va bien. Donc voilà, moi je trouve que c'est normal qu'on pose la question, ça fait partie du job. Après voilà, le job c'est je donne réponse et qu'on n'aille pas plus loin. Donc voilà, je t'ai répondu, Thibaut.
Voilà Thibaut.
Mais c'est vrai, si on va jusqu'au bout, vous livrez déjà une grande partie de votre vie privée dans ce livre.
Oui, je lis.
Où est-ce qu'on met la barrière à un moment donné
Là où
est-ce qu'on
n'a
pas trop dit à un moment donné, je me mets côté lecteur. Hein,
Non, je la mets là où la barrière est mise, là où moi j'ai envie de la mettre. Après, évidemment, peut-être que le lecteur ou la personne
peut pas comprendre
a envie d'avoir plus. Ça, c'est son droit le plus absolu, en fait. Hein. Il est libre de penser et de vouloir obtenir certaines choses. C'est pas parce qu'il le souhaite qu'il l'obtiendra. Et puis là, tout est relatif. Qu'est-ce qui est privé de ce qui l'est pas ? Il y a des gens qui vont parler très facilement de choses de leur vie même, peut-être intime, sexuelle ou autre chose, parce qu'ils estiment que c'est leur travail de parler de ça. Et on va dire, mais c'est hyper intime. L'intimité, c'est quelque chose de très relatif. Moi, ce qu'il y a de plus précieux et de plus intime est mon jardin secret. Ne se trouve pas dans ce livre. Il est ailleurs. Ça, c'est un travail de transmission que je fais parce que je pense qu'il y a des gens qui vivent des choses parfois compliquées et complexes et que le fait de lire, comme l'a fait par exemple un jour, certains la connaîtront, Oprah Winfrey, avant qu'elle faisait ses interviews avec des grandes célébrités, elle a commencé avec des témoignages sur les infanticides, sur des femmes qui avaient tué leurs enfants et sur aussi les violences conjugales. Et je me souviens que mes cousines beaucoup plus âgées avait adoré ce programme parce qu'elle disait c'est la première fois que la parole se libérait. Elle laissait les gens parler de choses qui étaient extrêmement taboues. Donc c'est un peu peut-être cette philosophie, cette chose-là qui m'imprègne énormément et que je fais dans un peu plus petit niveau, c'est-à-dire avec ce livre. Donc l'intimité, c'est relatif pour moi. Mais je comprends que les gens disent « et on veut plus !» Mais non, c'est plus...
On veut plus ? Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans ce livre ?
Toutes des choses que vous ne saurez pas aujourd'hui, évidemment.
Non, ce sera l'objet d'un deuxième livre, c'est ça, en fait, c'est un peu un teasing.
Ah, peut-être, non, je ne sais pas, non, je ne sais pas s'il y aura d'autres livres. D'abord, il faut voir comment ce livre est reçu, mais il faut faire, pour moi, dans ce type de livre, il faut le faire si ça a un intérêt pour l'autre. Si vous le faites que pour vous, bah, écrivez juste des belles pages. Pour vous, comme un journal intime, et gardez-le pour vous. Ça doit être utile. Si ça sert aux gens, alors là, j'aurais tout gagné. Ça veut dire que j'aurais fait un travail cathartique pour moi et thérapeutique en écrivant. Et en plus, ça aura apporté quelque chose à l'autre, une nouvelle porte qui s'ouvre, une clé de compréhension. À un moment, on se dit « Ah, c'est ça, en fait. Ah, elle aussi. » Donc, c'est-à-dire que je ne suis pas complètement seule dans cette solitude où c'est normal. Voilà, c'est important de se dire que ce qu'on vit très intérieur, en fait, n'est pas... unique et partagé par d'autres gens. C'est ce qui permet de se dire que, eh bien, il y a de la lumière au bout du tunnel.
Sarah.
Oui, alors Thibaut répond, il dit « Ok Tatiana, je vais acheter votre livre.
Ah, » Voilà.
un nouveau lecteur. Et je vais poser la question de Pokéfan. Comment êtes-vous arrivé à présenter 90 minutes enquête et pourquoi avez-vous voulu présenter ce genre d'émission de reportage avec, aux côtés des forces de l'ordre, notamment des urgentistes aussi, des pompiers ?
Un peu souvent dans ma vie, c'est des propositions qui arrivent en fait sur mon chemin et on les prend, on les prend pas. Ici, je les ai prises. C'est Carole Rousseau qui présentait cette émission qui est devenue une marque de fabrique de la chaîne TMC d'ailleurs. On a vraiment Quotidien et cette émission-là aussi. 90 minutes d'enquête et on me l'a proposé et tout naturellement je l'ai fait et je prends beaucoup de plaisir, surtout que maintenant on va vraiment et on tend vers plus d'émissions sur le terrain, donc à mon grand bonheur, parce que je rappellerai quand même c'est qu'il y a des équipes journalistiques qui font les reportages, c'est pas moi qui fais le reportage, je suis un peu le porte-drapeau, l'ambassadrice de ces émissions, mais c'est pas moi qui les fabrique, donc maintenant j'ai plus la chance de pouvoir aller sur le terrain, de rencontrer ces gens, notamment les CRS, ce soir les CRS de l'autoroute. Exactement, les CRS de l'autoroute, deuxième partie, ce mardi, où je peux vous dire qu'ils n'ont pas froid aux yeux, parce que quand on est à 200 km par heure sur l'autoroute, sur une moto, il faut avoir de l'assurance. Bon, ces gens sont des pros, hein, sont des professionnels, donc j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir leur métier. Donc voilà, c'est des choses qui ouvrent aussi mon spectre et mes connaissances.
Donc deuxième partie, évidemment, de l'enquête, pas deuxième partie de soirée, parce que c'est en prime time.
Oui, c'est en prime time, oui.
Sur TMC. Est-ce que votre quête de sens, hein, qu'on sent plutôt au long du bouquin, votre vision de la vie a changé votre rapport au travail et à ce que vous faites aujourd'hui à la télévision pour être...
En tout cas, je prends beaucoup de recul. C'est-à-dire que la télé, c'est un métier qui est très particulier. Je veux dire, quand vous êtes directeur marketing d'une boîte, vous pouvez aller dans une autre boîte et ainsi de suite. La télé, ben, y a quelques chaînes et puis on fait ce métier voilà, à l'antenne et pas ailleurs. Donc, je prends du recul. J'essaye de pas nourrir trop mon ego parce qu'on est beaucoup nourri hein, par cet ego, les réseaux sociaux, les gens vous contactent, les gens ont l'impression de vous aimer pour des raisons qui ne sont pas toujours tout à fait justes. Donc, prendre du recul, de se dire que c'est pas vrai. C'est la pellicule, c'est la surface, ça fait du bien. Je fais un métier aussi où j'ai besoin de reconnaissance, hein, je ne suis pas là pour rien non plus, j'en suis consciente, mais je prends du recul et j'essaye vraiment de cultiver ce pilier intérieur. C'est ce pilier qui fait que si demain on décide que je dois aller ailleurs ou faire autre chose chez TF1, je pourrais prendre de la distance et le recevoir hein, peut-être un peu mieux que si je n'avais pas fait tout ce travail. Il faut pouvoir se détacher. Et ce n'est pas évident, parce que c'est vrai qu'on est vite accroché à... Et on s'identifie vite à notre métier, à notre niveau social, etc. Et je pense que tout est en mouvement et il faut pouvoir s'adapter.
Il y a eu de la météo. Il y a de la météo aujourd'hui.
Oui,
il y a en effet du magazine d'enquête et de reportage. On vous parlait sur TMC. Il y a eu aussi Danse avec les stars.
Oui.
Une parenthèse légère, entre guillemets, on va dire.
Légère. Oui. Alors, c'est du travail quand même. C'est beaucoup d'heures d'entraînement.
Là, vous souffrez. Hein, vous dites clairement au début, vous avez vraiment souffert.
Oui, c'était dur.
Vous n'avez pas aimé finalement la prestation que vous aviez faite au départ.
La première prestation, non. En fait, j'étais tellement stressée. Et là, j'ai découvert mon côté très exigeante et très dure vis-à-vis de moi-même, finalement. Mais ça a été une belle aventure. On va dire, globalement, je le refais dans les mêmes conditions. Mais il faut être réaliste. C'est difficile. Et dès qu'on on est dur vis-à-vis de soi-même, dès qu'on a peur de pas être à la hauteur, ben on le ressent très fort. Il y a des gens qui sont très à l'aise, c'est-à-dire il y a des gens qui, même n'ayant pas un niveau extraordinaire, s'en foutent, ils vont, foncent. Et moi, j'admire ça. Moi, j'ai toujours peur de ne pas être assez bien, que ma jambe ne soit pas assez tendue, alors que je ne suis absolument pas une danseuse professionnelle. Donc, ça a été difficile, mais j'étais bien entourée. Christophe Licata était un prof extraordinaire.
Qui est toujours là.
Et qui est toujours là avec Dita Vontis. On leur souhaite d'ailleurs... belle route dans cette nouvelle saison.
Et du coup, est-ce qu'il pourrait y avoir un autre registre dans lequel vous pourriez vous exprimer sur TF1 ? On a vu beaucoup d'animateurs passer du côté de la comédie, hein, des comédiens, des acteurs, notamment dans les séries. Est-ce qu'on vous a déjà sollicité sur ce sujet ?
J'ai eu un petit rôle dans Joséphine Ange Gardien qui était très sympa. Ça m'a donné envie d'explorer, en fait. Ça m'a donné envie d'avoir un deuxième petit rôle pour voir, pour me dire, tiens, est-ce que ça te plaît vraiment ? Est-ce que tu as envie d'investir du temps, de l'énergie dans l'apprentissage de ce métier ? Parce que souvent, on oublie que c'est un métier et alors on passe du coq à l'âne, mais encore faut-il avoir l'expérience pour. Donc, pourquoi pas ? Donc, on verra si ça se représente sur mon chemin. Du coup, certainement que j'aurai envie d'explorer ce métier-là. Mais pour l'instant, voilà, je suis journaliste météo. Ça, c'est mon métier, c'est ce que je fais. Et je laisse le champ du possible arriver. Donc, si on me repropose, je sais pas, dans Camping, par exemple, un autre rôle et que j'y prends goût, pourquoi pas ? Ça serait une opportunité. Mais je n'ai pas cette obsession de me dire je veux devenir comédienne ou actrice. Il y en a qui l'avaient. Moi, je ne l'ai pas, en tout cas. Ce n'est pas encore réveillé en moi. Mais comme tout se réveille tardivement chez moi, en décalage, qui sait, j'aurai peut-être mon premier rôle seulement à 45 ans, je ne sais pas.
Donc, il faut dire aux gens dirigeants de TF1 qu'on peut attendre encore un petit peu, quelques mois, quelques années éventuellement, avant la prochaine série avec Tatiana. Une dernière question, Sarah.
Une dernière question. Alors, ce sera la même qu'on a posée hier à Laurent Mestra, qui était à votre place sur le plateau. Est-ce que s'il y avait un Danse avec les stars All-Star, vous serez partante ?
Ah oui, évidemment.
Oui,
évidemment, évidemment. J'aurais terriblement peur encore. Rien que d'y penser, je me dis, oh, t'es sûre de ça ?
Oula.
Mais bon, Laurent Mestra est un danseur extraordinaire aussi. Mais l'aventure est tellement belle. Je veux dire, on partage des émotions fortes. Et puis, c'est pour moi, une des plus belles émissions qui n'a rien à voir avec TF1, mais c'est au niveau technique, au niveau des lumières, au niveau de la production visuelle, c'est extraordinaire. Donc oui, je ne dirais pas non. Je ne sais pas si ça va se représenter, parce qu'il pourrait y avoir Augustine, Galena, il y a plein de gens qui pourraient prétendre à le faire, mais oui, sans hésitation.
Bon, on a déjà quelques oui, on est en train
on va essayer de convaincre.
En train de faire l'équipe.
Sans...
En fait, voilà, on ne l'a pas dit, mais c'est pour bientôt.
On monte le casting.
On va convaincre la direction de TF1 donc, pour ce deuxième projet, après les séries à All-Star, pour Danser avec les stars. Allez, on poursuit cet entretien avec notre dernière rubrique. en toute franchise que vous avez fait jusqu'ici. Amanda, vous allez nous répondre avec le plus de sincérité possible, comme le début de ce rendez-vous du Buzz Télé. Votre plus beau souvenir de carrière ?
Oh, je dois dire quand même ma première météo à TF1, je veux dire, reçue par Jean-Pierre Pernaut durant le journal, et puis après, ma météo. Beaucoup d'émotions, parce que plein de gens ont regardé cette météo à différents endroits dans le monde, donc oui, ça reste un moment fort et marquant.
Et quel est le pire souvenir ?
Ah, attendez, pire souvenir, je vais dire... C'est pas pire souvenir, parce que du coup, parce qu'on parlait de danse à l'essai, j'étais vraiment dans une angoisse énorme. C'est-à-dire, c'est pas pire souvenir, mais c'était dur la première danse à l'essai. C'est pas pire parce que c'est beau, c'était, ouais. Mais c'était très stressant. Quoi.
Très angoissant.
Mais je veux pas dire, c'est pas un pire souvenir.
Ouais.
Mais...
Est-ce que vous avez une manie, un tic, un toc dont vous pouvez pas vous défaire quand vous rentrez sur un plateau télé, notamment pour la météo hein?
Bah souvent, je chante hein, quand même. Hein. Je pense que je
chante.
Ah ouais je chante, ou je danse, ou je parle beaucoup. Et puis, on dit, est-ce qu'on peut y aller, Tatiana ? Est-ce qu'on peut faire la météo ? Donc, ce n'est pas un toc, mais souvent, je chante.
Ça permet de souffler, se détendre.
Oui. Mais puis, en même temps, il ne faut pas trop, parce que du coup, si je chante trop, je danse trop, mon énergie part. Donc, voilà. Mais oui, ça m'arrive souvent comme ça, ou de faire des blagues. Et les gens sont là, t'as arrêté ton métier, il faut que tu ailles ailleurs quand même. Humoriste, c'est peut-être pour toi. Donc, oui, je chante, je danse, oui.
Et en parlant de chansons, quelle est la chanson que vous écoutez en boucle en ce moment ?
Qu'est-ce que j'écoute ? Moi, je suis très old school, donc j'écoute des vieilles chansons, mais j'écoute rien en boucle. Je dois être honnête, rien en boucle. Bon, désolée.
Si vous pouviez faire naître une seule personne célèbre, vous choisiriez qui ?
Si je pouvais être une seule personne célèbre ?
Renaître.
Faire renaître.
Renaître. Michael Jackson, quand même. Hein.
Ah oui. C'est la deuxième fois qu'on a du Michael Jackson sur le...
Oui, je sais qu'il a été terni par tout ce qu'on a dit. Bon, c'est... Voilà, il n'y a pas de... Mais en tant qu'artiste, je pense que je le ferais renaître pour vivre un de ses concerts, surtout, en fait, parce que je pense que ça devait être extraordinaire. C'était un être particulier à ce niveau-là, quoi qu'on en dise. Je parle de l'artiste, là, vraiment, oui. Je pense que je ferais renaître Michael Jackson et je pense qu'il y aurait des millions de gens qui seraient très contents, donc...
Son talent, en effet, nous manque.
Ouais. Qu'est-ce qui vous déplaît le plus dans votre caractère et dans votre apparence physique ?
Alors, mon caractère, c'est mon côté très exigeant parfois, qui est parfois pas évident d'être un peu plus cool par rapport à ça. Et physique, mes genoux, hein. Il y a des jours où c'est mieux, ça va mieux, mais les genoux,
ouais.
Clairement.
Eh bien, on ne voit pas que le plateau.
Non, là, on ne les voit pas.
Ouais. C'est vrai que pour la météo, on peut les voir.
Oui, ouais. Vous les voyez. Alors, ils ne me posent pas... Autant problème que du fait, enfin, c'est pas si problématique au point de devoir les cacher, mais
oui.
c'est pas l'endroit que je préfère, voilà.
Du corps.
Oui.
Si vous n'aviez pas été présentatrice météo, vous auriez fait quel métier ?
Oh, j'aurais pu faire guide touristique, psychologue, archéologue. Qu'est-ce que j'aurais pu être autre ? J'ai rêvé à un moment donné de faire hôtesse de l'air, j'aurais pu le faire. Maintenant, j'en rêve moins, mais peut-être, oui, tout ce qui est en lien avec l'humain ou l'histoire.
Le voyage, l'évasion, l'impression.
Évasion, oui, guide touristique, archéologue, psychologue, ça me plaît énormément. Donc, j'aurais pu être ça. Avocate. Parce que l'injustice, parfois, ça, c'est des choses, je pense, comme beaucoup de gens me travaillent, donc des choses invraisemblables qui se passent. Donc, voilà, oui, je pense qu'avocate aurait été intéressant parce qu'on peut faire avancer les choses de ce côté-là. Donc, voilà, c'est des métiers que j'aurais pu faire dans cette vie-ci. Ça sera pour la prochaine.
Quel est l'objet le plus précieux que vous possédez ? Peut-être sentimentalement, bien sûr.
Un objet précieux, j'en ai quelques-uns. J'ai plein de petits bijoux un peu précieux, mais... S'il y a un objet précieux, parce que je pense à ma mère, il y a ses lunettes, en fait, que je pense porter un jour, peut-être pas avec les mêmes foyers, mais j'ai sa paire de lunettes et je me dis qu'un jour, si je devais porter des lunettes, eh ben, je changerais les verres et ça sera ça. Mais c'est dans une boîte, je l'ouvre jamais, donc c'est l'objet que j'ai de précieux. J'ai peu d'objets, en fait, de mes parents, donc c'est des choses qui me tiennent à cœur.
Il ne nous a pas échappé que l'élection présidentielle va se tenir dans quelques mois.
Ah bon ?
TF1 et LCI ont prévu d'ailleurs de larges dispositifs pour en parler et le relayer. Admettons, demain, vous êtes élu chef de l'État.
Ouf.
Allez, soyons fous. La première décision que vous prenez ?
Ah, c'est une très, très bonne question. Je ne pourrais pas vous répondre à cette question parce que je ne suis pas assez l'actu politique et il y aurait un tas de choses là... auquel je pense, mais peut-être alors prioritairement, ce qui s'est passé, c'est donner beaucoup plus de moyens aux services hospitaliers. Parce qu'on en a beaucoup parlé et je pense qu'il y a peut-être une volonté du gouvernement, mais on n'a pas vu vraiment les effets et on n'est pas à l'abri de quelque chose d'autre qui puisse nous tomber. Donc donnons les moyens quand même à ces gens-là de pouvoir mieux travailler, et eux, mieux travailler, c'est protéger notre société. Donc, je pense, ouais. Parce que le bien le plus précieux qu'on a, hein, avant l'éducation, c'est important, etc. Mais si on n'a pas la santé, on ne sait pas suivre une éducation. Donc, tout part de ça, en fait. Quand UNICEF, on fait ce travail avec les enfants, de leur permettre d'avoir une stabilité au niveau juste de la santé, c'est pour pouvoir, voilà, arriver à faire d'autres choses. Donc, on a beau avoir de l'argent, si on n'a pas la santé, on ne sait pas se réaliser. Donc, la santé, oui, définitivement.
Et dernière question pour clore cet entretien, il fait beau demain ou pas?
C'est une super bonne question, attendez.
Comment on s'habille?
Alors, il fait très mauvais ce week-end, ça c'est sûr et certain.
Les tempêtes, mais... oui, j'ai entendu.
Ouais, ah, ce ouais. week-end, c'est vraiment pas terrible. Mais jeudi, c'était une belle journée. Mercredi et jeudi, ah. c'était une belle journée. Donc, mercredi, je pense que c'est une belle journée. Il y a l'anticyclone qui revient, je crois que c'était ça. Jeudi, ça tenait, et puis vendredi, ça partait déjà...
C'est sincère, hein?
C'est sincère, je reviens vendredi, mais non, je suis... Non, parce qu'en fait, j'ai les réminiscences de mes bulletins de ce week-end. Là, c'est Evelyne. Regarde Evelyne, elle sera mieux renseignée que moi pour la
Et on vous retrouve ce week-end.
Vendredi, vous me retrouvez à l'antenne.
Merci, Tatiana, d'être venue. Je rappelle, donc, dans toutes les bonnes librairies, pardon, tout commence par soi, hein,
oui.
Édition Albin Michel. Et donc, oui. ce soir, en prime time sur... TMC.
Les CRS de l'autoroute, deuxième épisode en prime time.
En prime time, et nous nous retrouverons demain un ouais. nouvel invité.
Avec un comédien que vous avez peut-être découvert dans Fais pas ci, fais pas ça, et puis il a fait plein de choses, notamment au cinéma. Eh bien, c'est Guillaume de Tonquédec, qui vient nous parler de Germinal. C'est la fiction événement adaptée du roman d'Émile Zola, bien sûr, qui vient sur notre plateau pour nous en parler demain.
Vous avez de la chance.
Et qui sera sur France 2.
France 2, ouais, diffusé en prime time aussi.
Merci encore et portez-vous bien.
Merci, prenez soin de vous.
Prenez soin de vous.